votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
6h42, je veux qu'on parle un peu judiciaire ce matin. Deux choses, Claude y a fait référence, d'ailleurs c'est Claude qui est avec nous, le procès devant jury de Mélissa Côté, soupçonnée d'avoir voulu faire assassiner son ex-conjoint. Alors hier, Claude, c'était les plaidoiries des avocats. En résumé, qu'est-ce que tu retiens de cette journée-là?
Ben écoute, des plaidoiries qui n'ont pas duré nécessairement très, très longtemps. La première qui a parlé, c'est Maître Martine Garceau-Lebel, qui est l'avocate de l'accusée Mélissa Côté. Elle a pris la parole un peu après 10 heures hier avant midi. Dans son cas, sa plaidoirie a duré à peu près une vingtaine de minutes et son principal argument, c'est qu'elle croit qu'il y a eu malentendu sur les paroles prononcées par Mélissa Côté, à la fois dans ses échanges avec celui qui l'a dénoncé, Daniel Vallière, et lors de sa rencontre avec l'agent d'infiltration. Et par la suite, Maître Catherine Lemay a soulevé des contradictions dans les propos de l'accusé. Maître Lemay qui a surtout parlé de la crédibilité des témoins de la Couronne, surtout Daniel Vallière, parce que Daniel Vallière, c'est le principal témoin de la Couronne dans cette histoire-là. Mais il faut rappeler une chose, Catherine, c'est que Daniel Vallière, c'est un gars qui a déjà eu des problèmes avec la justice dans les dernières années. La dernière fois, il avait allumé le feu dans sa résidence pour frauder sa compagnie d'assurance, s'était retrouvé en prison. Donc, sa crédibilité comme témoin a été au cœur des débats. Et Maître Lemay, hier, a rappelé que Vallière, ben, comme il n'avait rien à perdre dans cette histoire-là, il était très sincère lors de son témoignage. Et à plusieurs reprises, Maître Lemay a demandé au jury s'il croyait l'accusé. Là, c'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, ce qui va se passer, le juge Raymond W. Pronovo prend la journée pour préparer les recommandations qu'il va faire au jury lundi matin. Et à partir et après ça, ben, les sept hommes et cinq femmes qui vont délibérer. Et je veux juste rappeler que Mélissa Côté est accusée d'avoir conseillé à une tierce personne de commettre un meurtre, d'avoir conseillé à un agent d'infiltration de commettre un meurtre, et également tentative de meurtre. Alors, on surveillera ça la semaine prochaine.
Absolument. Et Claude, je veux revenir sur un autre dossier, sur l'affaire Vadeboncœur. Il y a deux agents qui ont été sanctionnés par le comité de déontologie policière. Si on replace les choses, Claude?
Écoute, c'est une histoire qui remonte à février 2013, le 2 février 2013. Alors, ça fera 8 ans, là, en février prochain, que survenait cette fameuse arrestation d'Alexis Vadeboncœur, qui avait été filmée par des caméras de surveillance, par une caméra de surveillance du cégep de Trois-Rivières. Ce soir-là, Vadeboncœur s'est rendu dans une pharmacie du boulevard des Récollets pour y commettre un vol. Et il y a eu une poursuite à pied impliquant des policiers de Trois-Rivières qui s'est terminée dans la cour du cégep de Trois-Rivières. 4 policiers qui avaient été impliqués dans cette arrestation. Ce qui est survenu cette semaine, c'est que le comité de déontologie a rendu sa décision concernant les policiers Kevin Deslauriers et également Dominique Pronovo. Deslauriers qui écope de 45 jours de suspension, Pronovo qui écope de 2 jours. On pensait que c'était terminé, ce dossier-là. Ben non, c'est probablement le dernier chapitre dans cette histoire-là. Et il faut rappeler qu'à la suite de l'arrestation des policiers, il y avait eu un important procès qui s'était déroulé à Trois-Rivières impliquant les 4 policiers. 3 des 4 avaient été acquittés. Seul Kevin Deslauriers avait été reconnu coupable de voies de fait simple et acquitté sur les autres chefs d'accusation. Donc, le seul à ne pas avoir été réintégré dans le service de police de Trois-Rivières, ça a été Kevin Deslauriers. Alors, est-ce qu'on en a terminé maintenant avec l'histoire des policiers impliqués dans le dossier d'Alexis Vadeboncœur? Avec la décision du comité de déontologie, je pense que oui. Procès terminé. La déontologie a rendu sa décision. Là, maintenant, je pense que le livre est complètement fermé dans cette histoire-là.
Claude, hier, dans les reportages télé, on remontrait les fameuses images là, de l'arrestation. C'est tout le monde dans la région, puis même au-delà de la région, parce que c'est un dossier qui fait jaser nationalement, mais j'ai l'impression que c'est dans les images qu'on a plus vu dans les dernières années. C'est toujours évidemment les mêmes images, mais on les a-tu vues, ces images-là?
Écoute, Catherine, premièrement, quand on parlait de cette histoire-là, la quantité d'images qu'il y avait pour illustrer les reportages, même pour nous autres, tu sais, des photos de cette arrestation, ben écoute, il n'y en a pas des milliers.
Non, en effet.
Ce ne sont que les seules images. Puis, tu sais, on s'est toujours dit, Catherine, les gens en parlant disaient la même chose. Si cette arrestation-là s'était déroulée, exemple, 50 pieds plus loin du cégep de Trois-Rivières, il n'y en aurait pas eu d'image de l'arrestation. Et je pense que cette histoire-là n'aurait jamais eu le retentissement que ça a eu dans les médias si ça n'avait pas été filmé par une caméra de surveillance. Parce qu'à ce moment-là, pas d'image, ben, ça voudrait dire que ce serait la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Exact. Non, non, ton résumé.
Puis je fais le lien, Catherine, avec l'histoire Mélissa Côté. Ça a été soulevé aussi par l'avocate de la Défense parce qu'il n'y a pas eu d'enregistrement de... La conversation avec l'agent d'infiltration n'a pas été filmée. Il n'y avait pas de caméra sur lui. Ça n'a pas été enregistré. Il n'y avait pas de micro sur lui. Alors, elle a dit, ben c'est simple. C'est la parole de un contre la parole de l'autre.
Oui, carrément. OK. Merci beaucoup, Claude, pour ce bon résumé des deux dossiers.